Impact, un roman de Éric Simon. Chapitre 10. 18 août 2025. La lettre officielle qu'avait reçue Denis Majorana, datée du samedi 16 août, était inquiète et inquiétante. Le directeur de la communication de Skylink, Amir Khan, annonçait une augmentation inédite de la perte de satellites en cours d'opération sur des orbites stables. En plus des 5 perdus les 11 et 14 juillet, puis les 28 et 29 juillet, Khan mentionnait la disparition de 4 nouveaux satellites dans la première semaine d'août, puis de 5 la semaine suivante, et de 8 la troisième semaine d'août, qui n'était même pas complète. Toutes les coordonnées orbitales et physiques des satellites perdus étaient fournies jusqu'à leur moindre détail de fabrication. La teneur du texte faisait penser à un appel à l'aide, mais l'autorité de contrôle des activités spatiales que dirigeait Majorana ne pouvait rien faire d'autre que d'interdire les lancements depuis le sol états-unien. Ce n'était probablement pas ce que souhaitaient les dirigeants de Skylink. Denis Majorana comprenait surtout qu'il se passait clairement quelque chose d'anormal en orbite basse. Un aussi grand nombre de satellites qui subissaient des impacts de débris de manière accrue au fil du temps faisait penser au pire des scénarios envisageables, un syndrome de Kessler, une série de destructions en chaîne de satellites qui devient exponentielle et incontrôlable, les débris des uns provoquant de plus en plus de destructions d'autres satellites proches ou moins proches, plus le temps passant et les débris se dispersant de leur lieu de production. En regardant les chiffres mentionnés dans le courrier de Skylink et en ajoutant la perte d'un satellite russe que lui avait communiqué Mitchell de la NASA et en découpant par semaine en partant de la deuxième semaine de juillet, Majorana gribouilla un petit tableau sur une feuille de papier. S1, 2. S2, 3. S3, 4. S4, 5. S5, 8. Il y avait clairement une tendance exponentielle. Le nombre de satellites fragmentés augmentait d'un facteur 2 toutes les deux semaines. Majorana appela immédiatement John Mitchell. Il dit à sa secrétaire qu'il devait lui parler de toute urgence. « Je viens de recevoir un courrier officiel de Skylink annonçant une série de nouvelles pertes de satellites ces 3 dernières semaines. Le nombre est en constante augmentation, et on peut même déjà voir le début d'une tendance exponentielle. Depuis le début du mois d'août, en plus des 3 de la fin du mois de juillet? C'est pas vrai. Il faut que je te dise que je viens d'avoir une information de l'agence chinoise, la CNSA. Ils ont eux aussi perdu un satellite, le satellite océanographique OceanSat. C'était le 7 août. Et le SSN nous a informé d'une augmentation significative de débris centimétriques et décimétriques depuis le 6 août, qui continue à augmenter tous les jours. On est en train de surveiller ça, mais c'est pas bon. « Oh non !» souffla Majorana. « Est-ce que Skylink fournit les données orbitales de ses satellites perdus ?» demanda Mitchell. « Oui, ils donnent tout. On dirait qu'ils sont conscients que quelque chose de très anormal est en train de se passer. Leur courrier montre qu'ils sont très fébriles. Donc, il faut ajouter ce satellite chinois à la liste. Je te donne les chiffres, John. Si on prend comme début la semaine de la perte du télescope japonais, on en a 3 la première semaine, à nouveau 3 la semaine suivante, 4 en semaine 3, 6 en semaine 4 et 8 en semaine 5, c'est-à-dire la semaine dernière. « Ils en ont perdu 8 la semaine dernière ?» répliqua John Mitchell, visiblement interloqué. « Oui, 8. Les débris décimétriques, c'est quel genre d'augmentation ?»« Entre le 5 août et le 12 août, c'est environ 6000 en plus, avec une croissance chaque jour et une dérivée de la croissance positive. » Pour les satellites, il faut savoir que ce n'est que ceux dont on a connaissance. Évidemment, il est tout à fait possible qu'il y ait d'autres satellites russes ou indiens qui ont subi le même sort. 6000 gros débris en une semaine! J'imagine que les petits débris suivent la même tendance? Demanda Majorana. Oui, c'est du même genre, on a avec un ratio qui reste à peu près constant de 1 pour 23, répondit Mitchell.
Pour les débris décimétriques, on a quelle augmentation journalière? Le chiffre d'hier pour les plus de 10 cm, c'est plus 1087. Et avant-hier, on avait plus 1059. Voilà où nous en sommes, Denis. Et le total? Les données d'hier, ça nous fait, toujours pour les décimétriques, un total de 45 074. Déjà plus de 45 000! Et oui, ça va très vite. Pour rappel, on était à 32 000 le 5 août, répondit Mitchell. Les pertes de satellites sont très probablement liées à cette forte augmentation de débris, que ce soit des sources ou des cibles. Ça me paraît évident. On est dans une situation critique maintenant. Rien qu'avec les pertes de satellites de cette liste, on voit un taux de doublement de 2 semaines. Et je parierais qu'on voit les mêmes évolutions exponentielles pour les débris. Si on projette l'évolution du nombre de débris qui s'ajoutent quotidiennement, j'ai fait le petit calcul, on arriverait à 64 000 débris décimétriques, donc un doublement par rapport au 5 août, ça serait le 2 septembre. En moins d'un mois. Oui, et ça pourrait être bien pire encore, parce que ça peut être un facteur multiplicatif qui augmente lui-même. Bon, il faut absolument surveiller ce qui se passe cette semaine du côté de Skylink, ou ailleurs, en parallèle de notre suivi de l'évolution du nombre de débris. Comme Skylink est le principal lanceur aujourd'hui, leur situation devrait donner une bonne idée de la situation globale, finalement. Les autres constellations et autres satellites devraient être marginaux par rapport à la flotte Skylink. Tout à fait. De mon côté, je vais prononcer une interdiction temporaire des lancements tant qu'on n'en sait pas plus sur l'évolution de l'orbite basse, répondit Denis Majorana. Oui, ça me semble raisonnable. Du côté de la NASA, ça n'aura pas d'impact immédiat. Nous n'avons pas de lancement important prévu dans les 2 prochains mois. En revanche, dans 2 mois, nous aurons un ravitaillement de l'ISS. Très bien, merci de me préciser cela. Je vais déclencher la procédure d'urgence pour l'interdiction des lancements jusqu'à nouvel ordre. Je te précise que nous avons transmis dès le 14 les informations du SSN à l'Interagency Space Debris Coordination Committee pour que toutes les agences soient en phase. Très bien, c'est ce qu'il fallait faire, répondit Majorana. L'IADC avait été institué en 1993 pour que la plupart des grandes agences spatiales collaborent à la surveillance, à l'étude et à la gestion des débris spatiaux. En l'absence d'un droit international, les membres de l'IADC avaient établi en 2007 un recueil de règles à suivre pour la réduction des débris spatiaux. Ces règles incluaient notamment la mise en œuvre d'une désorbitation rapide des étages supérieurs des lanceurs, la rentrée dans l'atmosphère des satellites en orbite basse au bout de 25 ans, ou encore le déplacement des satellites géostationnaires sur une orbite cimetière, au-delà de 36 000 km d'altitude. Les États-Unis, le Japon et la France étaient les pays les plus impliqués dans l'IADC, et la France était même le seul pays qui disposait déjà d'une réglementation portant sur la limitation des débris spatiaux et la prévention des risques de collision. Dès 2008, elle avait voté une loi en ce sens, relative aux opérations spatiales. Mitchell, comme Majorana, n'avait qu'un nom en tête, celui de Kessler. Donald Kessler était l'ingénieur américain qui avait théorisé et prédit, en 1978, ce qui était visiblement en train de se passer en orbite basse aujourd'hui, et qui avait beaucoup œuvré pour la mise en place de l'IADC. Dans un article publié dans le volume 83 du Journal of Geophysical Research, Donald Kessler et son collaborateur Burton Courpalais décrivait un scénario dans lequel la densité d'objets en orbite basse serait suffisamment importante pour que les collisions entre objets puissent provoquer une cascade dans laquelle chaque collision générerait des débris qui augmenteraient la probabilité de nouvelles collisions. L'article s'intitulait « Collision Frequency of Artificial Satellites, the Creation of a Debris Belt ». Kessler et Courpalais prenaient en exemple le processus contrôlant l'évolution des astéroïdes et impliquant de multiples collisions. Ils montraient qu'un processus de collision similaire devrait apparaître en Léo en quelques décennies plutôt qu'en plusieurs milliards d'années pour le cas des astéroïdes. Dans leur article, les deux ingénieurs du Johnson Space Center de Houston travaillait à l'époque avec une population globale de seulement 3866 satellites entre 150 km et 4000 km d'altitude et concluait à un taux de collision de 0,013 par an. Il y avait actuellement 4 fois plus de satellites en orbite, ce qui signifiait un taux de collision multiplié par 16, puisqu'il variait comme le carré du nombre de satellites. En extrapolant le chiffre de Kessler de 1978, on arrivait à un taux de collision d'environ 0,2 par an. Mais c'était sans compter la présence des milliers de débris provoqués par les tests anti-satellites américains, chinois et russes, que Kessler et Kourpalais étaient loin d'imaginer en 1978. C'est à John Gabbard du NORAD, l'organisme de surveillance américain de l'époque, que l'on devait en 1981 l'invention de l'expression « syndrome de Kessler » pour décrire le scénario catastrophe qui découlait de l'effet des cascades de collision que démontraient Kessler et Kourpalais dans leur étude de 1978. Gabbard avait inventé le terme « syndrome de Kessler » pour désigner l'accumulation de débris. L'expression s'était ensuite très largement répandue dans le grand public après son apparition dans un article du numéro de juillet 1982 de Popular Science par Jim Schefter, qu'il avait intitulé « The Growing Peril of Space Debris ». Schefter avait remporté le prix national de journalisme de l'Aviation Space Writers Association la même année. L'article était illustré par un dessin impressionnant en pleine page où on voyait un satellite qui subissait une collision frontale avec des débris filant à vive allure. John Gabbard avait été sensibilisé au sujet dès les années 60, ayant construit la première base de données des satellites et débris existants en orbite du fait d'explosions soudaines de réservoirs et autres batteries. Gabbard avait même développé une technique infaillible pour prédire les trajectoires orbitales des débris. Ce que l'on appelait les diagrammes de Gabbard était toujours utilisé 50 ans plus tard. Dans les années 60, on estimait que le freinage atmosphérique désorbiterait les débris plus rapidement qu'ils n'étaient créés. Mais Gabbard pensait que le nombre et le type d'objets en orbite basse étaient largement sous-représentés dans les données du NORAD. C'est en 1979, suite à l'article de Kessler et Kourpalais, que la NASA avait lancé son programme d'études des débris spatiaux, sous l'impulsion de Robert Frosch, l'administrateur de l'agence américaine de l'époque. En octobre 1979, la NASA avait alors fourni à Kessler un financement pour effectuer des études plus approfondies. Il avait utilisé plusieurs approches, mais la méthode la plus efficace était l'utilisation conjointe de télescopes optiques et de radars à courte longueur d'onde pour mesurer le nombre et la taille des débris spatiaux. En 1981, Kessler montrait dans un nouvel article intitulé « Sources of Orbital Debris and the Projected Environment for Future Spacecraft » publié dans Journal of Spacecraft, que 42% des débris catalogués étaient le résultat de seulement 19 événements, essentiellement des explosions d'étages de fusées, en particulier les fusées Delta américaines. À partir de 1986, la NASA avait élargi son programme pour inclure d'autres agences internationales, la première étant l'Agence spatiale européenne. La poursuite des études de Donald Kessler avait permis de démontrer en 1991 que le décompte des populations cataloguées précédemment était au moins 50% trop faible. Il fallait dire que certains satellites militaires américains étaient volontairement absents dans la liste du NORAD et que d'autres objets n'avaient pas non plus été inclus parce que considérés comme sans importance. Et à l'époque, le catalogue ne pouvait pas prendre en compte les objets mesurant moins de 20 cm. Kessler avait cette fois publié son étude dans Advances in Space Research, un article qu'il avait intitulé « Collisional Cascading, the Limits of Population Growth in Low Earth Orbit ». La création du comité de coordination interagence, l'IADC, pour laquelle Donald Kessler avait fortement milité pendant des années, avait coïncidé avec une prise de conscience du côté des Européens de l'importance, si ce n'est de l'urgence, d'étudier de près les effets des débris spatiaux. C'est ainsi que l'ESA, appuyé par les agences nationales françaises, allemandes, italiennes et britanniques, avait créé la première conférence scientifique qui était consacrée entièrement aux débris spatiaux. La première édition eut lieu à Darmstadt en avril 1993 et avait réuni 251 experts mondiaux de 17 pays, dont la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie et les États-Unis. Donald Kessler ne l'aurait raté pour rien au monde. Il avait participé en tant qu'auteur principal ou co-auteur à 3 études présentées dans cette conférence. L'événement fut un tel succès que l'ESA décida d'en organiser une édition ensuite périodiquement, tous les 4 ans. Lors de la 3e édition de l'European Conference on Space Debris, qui avait à nouveau lieu à Darmstadt en 2001, Donald Kessler avait battu un record en étant l'auteur ou co-auteur de pas moins de 5 articles présentés devant ses pairs. Kessler prit sa retraite en 2005, même s'il avait déjà quitté officiellement la NASA en 1996. Entre-temps, il avait continué à travailler sur les débris en tant que consultant pour Lockheed. En 2017, alors qu'il était âgé de 77 ans, l'ESA et la NASA lui firent l'honneur de l'inviter à faire un séminaire lors de la 7e European Conference on Space Debris, qui avait encore lieu à Darmstadt. Donald Kessler avait fini par aimer cette ville et ce pays d'où étaient originaires ses ancêtres. Cela faisait exactement une semaine que Lori Cortez avait alerté les chefs du SSN sur l'augmentation soudaine et continue du nombre de débris centimétriques et décimétriques. Une semaine pendant laquelle le nombre de débris avait continué à augmenter chaque jour. La situation était en train de dégénérer et personne ne semblait pouvoir agir. L'interdiction de tout lancement jusqu'à nouvel ordre pourrait éventuellement réduire l'effet qui semblait s'être déclenché, mais c'était sans doute déjà trop tard. Le 19 août, la direction de la NASA reçut un mémo du Jet Propulsion Laboratory à Pasadena qui annonçait l'apparition d'un défaut majeur du télescope Hubble. Le vénérable télescope spatial venait de se mettre en safe mode quelques jours plus tôt à cause d'un défaut sur la production des images. Après analyse des équipes d'ingénieurs et chercheurs, ils étaient arrivés à la conclusion que c'était le miroir principal du télescope qui s'était brisé, ou plutôt qui avait été brisé, probablement par l'impact d'un débris subcentimétrique à grande vitesse. La hantise de tous les astronomes du monde entier venait de se concrétiser sur le plus beau télescope spatial dédié aux longueurs d'onde visibles et ultraviolettes. Le miroir primaire était brisé. Le télescope Hubble avait été mis en orbite en avril 1990 par la navette spatiale Discovery. Son miroir de 2,40 m de diamètre lui permettait de produire des images avec une résolution angulaire inférieure à 0,1 seconde d'arc, avec une capacité inédite de ses imageurs et spectroscopes entre l'infrarouge proche et l'ultraviolet. Mais il n'avait pu être exploité qu'à partir de 1993, car une grave aberration optique avait été découverte très peu de temps après sa mise en orbite à 600 km d'altitude. Heureusement, il avait été conçu pour permettre des opérations de maintenance par des missions de navettes spatiales. 5 missions de maintenance avaient été effectuées entre 1993 et 2009, ce qui avait permis de corriger l'erreur originelle et de moderniser ces 5 instruments scientifiques. Durant plus de 30 ans, le télescope Hubble avait surclassé les instruments au sol les plus puissants, handicapés par la présence de l'atmosphère terrestre. Au cours de ces décennies, les données collectées par le télescope Hubble avaient contribué à des découvertes de grande portée dans le domaine de l'astrophysique, telles que la mesure du taux d'expansion de l'univers, la confirmation de la présence de trous noirs supermassifs au centre des galaxies, ou l'existence de la matière noire et de l'énergie noire. Le télescope Hubble était l'un des instruments scientifiques les plus productifs jamais conçus. Les plus de 1,5 million d'observations qu'il avait effectuées avaient donné lieu à la publication de plus de 20 000 articles scientifiques, qui eux-mêmes avaient été cités plus de 1 100 000 fois. L'une des mesures les plus importantes qu'avait permise le télescope spatial était sans doute la mesure du taux d'expansion de l'univers, un paramètre cosmologique qui portait le même nom. Non sans hasard. Les astrophysiciens avaient utilisé les capacités extraordinaires du télescope spatial pour mesurer le taux d'expansion avec une précision d'un peu plus de 1%, ce qui était une valeur environ 8 fois plus précise que ce qui était connu initialement. Cette valeur de la constante de Hubble-Lemaître permettait d'affiner l'âge de l'univers à environ 13,8 milliards d'années. Mais en 1998, des observations effectuées avec le télescope Hubble, associées à celles d'observatoires au sol, avaient apporté une petite révolution dans la communauté scientifique. Plusieurs équipes de chercheurs arrivaient à la conclusion que non seulement l'univers était en expansion, mais que cette expansion s'accélérait. L'origine physique de cette expansion était toujours âprement débattue, même si on s'était accordé sur l'existence d'une constante cosmologique dans les équations de la relativité générale, qui décrivait la structure de l'espace-temps en expansion. Durant trois décennies, le HST, comme l'appelaient les astrophysiciens, avait surtout produit des milliers d'images qui étaient devenues iconiques et qui illuminaient toujours les fonds d'écran de millions d'ordinateurs dans le monde. Le télescope le plus célèbre du monde, encore devant le télescope Webb qui était entré en service en 2022 et qui, lui, ne risquait rien là où il était, n'était plus. 35 années de découvertes majeures se terminaient dans un fracas qui participerait à d'autres fracas dans les semaines ou les mois qui allaient suivre. Toute la communauté astronomique a pris la nouvelle très rapidement par divers canaux, sans que la direction de la NASA n'ait besoin de communiquer dessus.